Bonjour à tous et très bonne année. Je suis Aline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le média des expatriés entrepreneurs. Aujourd'hui, en partenariat avec la radio lesfrançais.presse, je vous emmène à Bali à la rencontre de Valentine. Bonjour Valentine et bienvenue sur la radio.
Bonjour et merci pour votre accueil.
Alors déjà, bonne année.
Bonne année également.
Alors comment dit-on bonne année en balinais?
C'est la mat taoun barou.
C'est la mat. Aoun Taro, c'est ça?
Taoun barou, on y est
On
presque.
y est presque, ok. Alors, Valentine, pour commencer cette émission, est-ce que d'abord tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans depuis bientôt 2 semaines et je suis expatriée avec mon copain Thomas, 23 ans également, à Bali.
Très bien. Donc, alors, vous vivez à Bali, voilà, depuis pas longtemps, depuis un mois. C'est une destination que vous n'avez pas choisie par hasard avec Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à Bali? Voilà, parce que vous êtes déjà très très jeune, vous avez déjà pas mal voyagé, donc qu'est-ce qui vous a amené jusque là-bas?
Bien sûr. Alors, en fait, nos voyages ont commencé lors de notre année de licence. On a étudié en Finlande. On a pas mal voyagé dans les pays du Nord. Et c'est vrai qu'en rentrant en France pour notre première année de master, on était assez un petit peu triste de rentrer en France. Donc on s'est dit qu'on allait partir préparer nos concours à l'étranger. Et c'est comme ça que nos voyages ont commencé. Donc, on a fait un tour du monde pendant un an et notre voyage a commencé par Bali. Pourquoi Bali? Parce que moi, ça fait maintenant 7 ans que j'y viens tous les ans avec ma famille. Et donc, à la suite de ce tour du monde, on hésitait entre s'installer au Sri Lanka et Bali, qui ont été nos deux gros coups de cœur et qui, financièrement parlant, étaient assez abordables pour notre jeune âge. Et puis, il y a un an, à peu près, en décembre dernier, on a eu une opportunité d'avoir un terrain ici à Bali. Et donc, du coup, on a souhaité pour notre projet professionnel s'installer ici.
D'accord. Et alors, je vais revenir un petit peu sur les études. Vous avez fait quoi comme études?
Alors, on a d'abord fait un DUT technique de commercialisation et à la suite de ce DUT, on avait l'opportunité de partir à l'étranger avec un DUETI, donc c'est l'équivalent d'une licence. Et à la suite de ce DUETI, on a fait un master pour ma part en marketing et pour Thomas en finance.
Et alors, quand on avait préparé un peu l'émission, vous m'avez dit que vous aviez fait vos diplômes, vous les avez eus en Australie.
Alors, en fait, c'est par rapport au concours. Pour les concours, on avait deux solutions. La première était, quand on rentre de Finlande, de faire une prépa classique. Donc, on avait été pris au pôle Léonard de Vinci, qui est l'école de Schéma. Mais finalement, on s'est dit que, bah, à l'époque, nous étions en 2020, on avait tous les moyens, à la fois technologiques et les ressources au niveau des livres, pour pouvoir étudier seul. Donc, du coup, nous avons préparé nos concours à distance, à travers 3 pays, et on s'est inscrit à l'ambassade de France pour passer nos concours en Australie. Donc, ce sont les concours grandes écoles qui permettent d'accéder aux écoles de commerce ou aux IAE en alternance.
D'accord. Mais est-ce que vous aviez un peu de, je dirais, de la technique d'apprentissage des autres pays où vous avez été, tu vois, qui différencie de la France? Vous avez pu...
Quand on a voyagé, on était autodidacte, donc on apprenait vraiment seul. Par contre, au niveau de la Finlande, c'est vrai que le système scolaire était totalement opposé à celui qu'on a pu connaître en France. C'est aussi l'envie qui nous a donné d'apprendre de manière autonome avec YouTube et tous les sites internet comme ressources. Parce que c'est vrai qu'être assis sur une chaise à écouter des choses qu'on peut apprendre tout seul tout en explorant le monde entier, c'est quand même beaucoup plus enrichissant.
Donc vous êtes assez débrouillard hein, quand même. Hein. Vous êtes un couple qui n'a
Oui,
pas, hein, qui n'a pas la langue
oui.
à se débrouiller. C'est super ça. Le fait d'avoir pas mal voyagé comme ça déjà à votre jeune âge, comment ont réagi vos parents?
Je pense qu'ils étaient assez préparés parce qu'ils ont eux-mêmes voyagé très jeunes pour ma part. Moi, à 18 ans, ils sont partis faire le tour des États-Unis avec 1 dollar par jour pour se nourrir et pour se loger. Donc, le goût du routard est dans notre famille depuis toujours. Et du côté de Thomas, son papa partait en voyage tous les 3 4 mois aussi, mais toujours dans un esprit routard. Donc, on a toujours su gérer nos budgets par rapport à ça. Par exemple, en Australie, on a dormi pendant un mois dans une Clio. Aux États-Unis, pareil. C'est vrai, c'est ce qui nous permet de pouvoir voyager, de faire le tour du monde aussi jeune, mais avec toujours des budgets assez restreints.
D'accord. Et alors, les pays que vous avez faits pendant votre voyage autour du monde?
Alors, du coup, on a commencé par Bali, ensuite on a fait Singapour, la Malaisie, le Vietnam, la Chine, l'Australie, le Japon, le Sri Lanka, la Grèce, les États-Unis et le Portugal. Je crois que j'en ai oublié.
Sacré parcours, hein. Alors, on va dire que c'est Bali qui vous a le plus plu puisque vous y habitez, mais dans les autres pays que vous avez visités, lequel retient votre attention?
Le Sri Lanka. Vraiment, ça a été un coup de cœur incroyable. C'est encore très, très préservé du tourisme de masse. Les paysages, les gens, la nourriture, la vie de manière générale nous plaisait autant qu'à Bali. Et on pense peut-être un jour, pourquoi pas tenter l'expatriation une fois que on aura fait ce qu'on avait à faire ici. Pourquoi pas tenter de nouvelles aventures parce qu'on a encore le temps.
Ok, très bien. Alors maintenant, on va parler en effet un peu de votre projet là. Pourquoi vous êtes là-bas? Voilà. Comment est venue cette idée de projet? Parce que voilà, vous avez créé une villa qui s'appelle Aina, que je la prononce bien.
Exactement.
Voilà. Comment est venue cette idée et pourquoi? Enfin, comment vous l'avez mis en place? Et aussi, si tu peux nous expliquer un peu ce nom.
Oui. Alors, comment nous est venue cette idée? Il faut savoir que depuis que on est parti étudier en Finlande, on n'a jamais eu assez de sous pour pouvoir voyager. Donc, on a toujours monté des business en parallèle de nos voyages. Et c'est vrai qu'à la fin de notre tour du monde, on s'est dit que maintenant, il serait peut-être temps de monter un business à l'étranger. Et lorsque Cadec, du coup, le propriétaire du terrain sur lequel on a construit notre villa, nous a appelé le 31 décembre 2020, et qui nous a dit, il nous a
En 2019, il me semble.
dit
2019, non?
2019, et
Est-ce
il nous a dit qu'on avait un terrain, il nous a demandé si on était intéressés. Le seul problème, c'est qu'on était prêt à lancer un business à condition d'avoir les ressources financières uniquement entre Thomas et moi et de dépendre ni d'une banque ni de notre famille. Donc, on a pris un mois pour réfléchir, sachant qu'on était tous les deux en master, pour ma part en alternance. On s'est dit que bah, pour monter ce projet, il fallait enchaîner les jobs. Donc, du coup, on a enchaîné 7 jobs en même temps. On dormait à peu près 3 à 4 heures par nuit pour collecter les fonds nécessaires pour cette villa. Donc, le projet est né comme ça. Cadec, du coup, que je connais depuis un petit bout de temps, nous a proposé un terrain. On a fait le point et on a enchaîné les jobs. Et maintenant, nous voilà avec une villa de 350 mètres carrés dans la ville d'Amed, dans l'est de Bali. Et pourquoi Waina? Parce que lorsque nous étions à Bordeaux, nous avions choisi Bordeaux pour être près de la, être plus proche de la mer. Et malheureusement, à cause du nombre de travail qu'on enchaînait, on n'a jamais eu le temps vraiment d'aller à la mer, au moins tous les deux. Et Waina veut dire vague en basque, donc c'est un petit clin d'œil à notre période bordelaise.
Ok. Et alors, ça c'est une jolie histoire. Et c'est quel est le but de votre projet?
Alors, le but dans un premier temps, c'est du coup, donc maintenant qu'on est propriétaire de cette villa, c'est de la louer. Actuellement, là, on a réussi à la louer pour 1 mois à 4 touristes expatriés différents. Mais à terme, une fois que nous serons assez financièrement à l'aise, on a un projet humanitaire qu'on a déjà lancé il y a 2 ans, qui est de permettre aux enfants.
Alors alors ça, on va y venir. Je te coupe juste avant. Mais aussi, tu m'avais expliqué quand on a préparé l'émission que comme vous aviez beaucoup eu de difficultés à trouver de stage, vous vouliez en profiter, vous, pour proposer justement à des jeunes qui voudraient venir vous donner un coup de main.
Tout à fait. En fait, l'idée nous est venue en se disant, bon, on a quand même pas mal d'opportunités qui montent leur bout de leur nez. On va peut-être pas pouvoir tout gérer et on a énormément galéré pour trouver une alternance ou un stage. En l'occurrence, Thomas n'a jamais trouvé d'alternance dans le domaine de la finance en master. Pourtant, étant bilingue, aucune opportunité n'est venue à lui. Donc, on s'est dit que maintenant qu'on était nos propres patrons, pourquoi pas donner l'opportunité à des stagiaires français de nous rejoindre. Donc, on a posté sur différents groupes des offres de postes. On a reçu plus de 200 candidatures et on a décidé de choisir 6 profils. On a retenu 6 profils qui vont se succéder à tour de rôle tout au long de l'année, donc pour gérer toute la partie communication digitale Et donc, ce sont des étudiants de tous les univers possibles. On ne fonctionnait pas forcément au CV, mais plus au feeling.
D'accord, ok. J'imagine que le rapport là-bas au temps et à la façon de travailler, que ce soit l'administratif balinais, quand, la façon quand ils ont construit votre villa, etc., c'est complètement différent du temps qu'on a en France, de la culture. Comment vous avez géré, voilà, cette différence de rapport au temps, de culture?
Alors, c'est vrai qu'au début, on nous a un petit peu pris pour des fous quand on nous a dit que, quand on a annoncé à tout le monde qu'on allait construire à distance. Mais d'un autre côté, on sait que les Balinais, à partir du moment où on leur fait confiance, tout roule. Et on avait quelqu'un de confiance qui gérait aussi cette petite différence culturelle. Donc, par rapport à ça, on n'a jamais eu énormément de problèmes. On a même été très surpris. Enfin, en 6 mois, notre villa était prête. Et de manière générale, les gens sont moins stressés, mais beaucoup plus actifs et performants que ce qu'on peut l'être en France. Par exemple, on se rend compte qu'ici, des choses qu'on va faire en 1 semaine en France, ici, vont peut-être le faire en 2 jours parce que justement, ils sont beaucoup moins stressés par leur environnement et donc ils prennent plus de plaisir à faire les choses.
Ah oui, donc l'environnement a un impact sur leur façon d'être, sur la façon de vivre.
Ah oui, énormément. Il n'y a vraiment jamais de problème. Tout est toujours très, très simple. On a rencontré beaucoup de difficultés avec notre villa par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'eau ou d'électricité. En 1 semaine, c'était résolu. Il faut juste être patient et pas les stresser. Et généralement, tout suit avec.
Très bien. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les Balinais?
Leur simplicité.
Et la beauté, je suppose, du paysage. comme tu le disais là, voilà, à Bali, vous avez aussi proposé votre aide pour une mission humanitaire à NAC. Est-ce que tu peux nous dire quelle est leur mission à eux et quel est votre rôle au sein de cette association?
Bien sûr. Alors, ANAC, du coup, c'est une association qui a été créée par une Française il y a plus de 10 ans, par une Lyonnaise. C'est une association qui vise à scolariser les enfants n'ayant pas les moyens ou étant orphelins, généralement les enfants des montagnes ou les enfants de pêcheurs. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'ANAC a plusieurs parrains venant de France, de Suisse et du Luxembourg qui financent chaque mois la scolarité des étudiants balinais. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à leur premier job. Donc, de la maternelle jusqu'au premier job, ils sont suivis par ANAC. Et chaque année, des parrains ou même des gens lambda qui viennent en vacances, comme pour nous, ça a commencé comme ça, on a ramené des dons la première fois et ensuite, on a décidé de s'y impliquer sur le long terme. En l'occurrence, à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de faire connaître l'association au sein des différents hôtels dans le coin d'Amed, pour que les gens puissent faire un minimum de donations. Et donc voilà, vraiment l'idée, c'est de les scolariser et de leur donner un confort de vie autre que celui dans lequel ils ont évolué.
D'accord, parce que c'est pas parce que l'île elle est très très belle que il n'y a pas des problèmes voilà, d'accès à la scolarisation
Alors,
ou autre quoi.
exactement, il faut savoir que les richesses sont quand même concentrées dans les endroits les plus touristiques. Et que tout autour, la pauvreté demeure. Maintenant, c'est pas une pauvreté comme celle qu'on peut trouver en France, dans le sens où il y a énormément d'entraide entre les Balinais eux-mêmes. Sauf que les gens restent quand même très timides, donc ils ne demanderont pas d'aide enfin, d'eux-mêmes. Ils attendront que quelqu'un se rende compte qu'ils sont pas forcément assez aisés pour amener leurs enfants à l'école. Et à ce moment-là, ils accepteront l'aide, mais d'eux-mêmes. C'est pour ça que ANAC, leur mission principale, c'est vraiment savoir qui a besoin d'aide dans les villages reculés.
D'accord. Et si les personnes qui nous écoutent ont envie de d'aider l'association, on peut, je sais pas, envoyer des dons, envoyer des fournitures scolaires
Alors,
ou ça passe pas comme ça?
Il y a plusieurs choses. Donc déjà, vous pouvez parrainer des enfants sur leur site internet. Vous avez plusieurs profils d'enfants dans le besoin actuellement. Donc vous pouvez parrainer. Et il me semble que le parrainage est défiscalisable, si ça se dit. Ensuite, au niveau des dons, alors pour tout ce qui est fourniture scolaire et autres, maintenant on a quand même ce qu'il faut. C'est plus au niveau de tout ce qui est produits d'hygiène, à savoir serviettes, draps, gants de toilette ou autres, c'est plus les produits d'hygiène parce que maintenant que les enfants scolarisés, les parents généralement amènent le maximum de fournitures scolaires, mais la pauvreté demeure à la maison et donc c'est les produits d'hygiène qui coûtent le plus cher à Bali.
Et juste avant là, tu me racontais une petite anecdote, voilà, que tu as appris à une maman balinaise à faire des gaufres. Tu expliques un petit peu pourquoi?
Exactement. Parce que avec le Covid qui bah, malheureusement qui fait que les frontières balinaises restent fermées, sachant que 80% des Balinais vivent du tourisme, pour certaines familles c'est assez compliqué. Et on s'est rendu compte que dans le coin d'Amez, il y avait des gaufres nulle part avec mon copain. Et on voulait monter un business de gaufres. Et j'ai rencontré une maman balinaise il y a 2 jours dans un restaurant qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je me suis dit qu'on pouvait lui donner notre idée et l'aider pour faire tout ce qui était son marketing, sa communication, etc. pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille. Donc j'ai passé ma journée à lui montrer comment faire des gaufres et je suis contente parce qu'elle m'a envoyé un message juste avant notre interview pour me dire qu'elle avait déjà reçu 10 commandes pour ce soir.
Ah bah c'est super. Ah, bravo, c'est très très bien. Je voulais parler un petit peu d'expatriation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expats là-bas à Bali? Et si oui, quelle nationalité?
Alors les chiffres officiels sont qu'il y a 10 000 expats à Bali. Il y a un peu toutes les nationalités. Depuis le Covid, je trouve qu'il y a énormément de Russes. Je suis assez surprise parce que jusqu'à là, il n'y en a jamais eu. Après, j'ai entendu que le gouvernement russe les payait pour rester à Bali pendant le Covid, donc je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité. Je dirais qu'il y a pas mal de Français, d'Allemands et de Hollandais. Il y a pas mal de Hollandais aussi puisque c'est une ancienne colonisation hollandaise.
Bien sûr.
Donc, il y a quand même pas mal d'Hollandais.
Et là.
Après, c'est quand même assez varié, hein. Il y a pas vraiment une nation qui est plus importante que les autres. C'est vraiment un mélange
Plus dominant.
de tous les pays.
D'accord. Et la vie là-bas à Bali pour les expats et pour les locaux, il y a une grosse, grosse différence, donc j'imagine.
Ah oui, il y a une grosse, grosse différence déjà parce qu'il part du principe que quand on est blanc, entre guillemets, expat, on a forcément de l'argent. Donc, il y a quand même un fossé à franchir entre un Balinais et nous. Il faut bien se faire, enfin, bien faire comprendre qu'on n'est pas juste des touristes, qu'on habite ici. Sinon, malheureusement, il y a plusieurs arnaques enfin, pas des arnaques, mais je veux dire, on n'aura pas les prix chez imprimeurs que ce que les locaux peuvent avoir. Et puis, même au niveau de la vie, eux n'ont pas du tout les maisons auxquelles nous, on peut prétendre. Donc, il faut quand même faire attention à ce fossé. C'est pour ça qu'on souhaitait absolument être, comment dire, implanté et impliqué au niveau de la vie sociale.
Très bien. Si on voulait venir s'installer à Bali, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner?
Oui. Pour s'installer à Bali, il faut être très, très rigoureux au niveau des papiers. On ne peut pas s'installer à Bali sans avoir de société. À Bali qui fonctionne et les sociétés sont très minimes dans les secteurs d'activité dans lesquels on peut travailler. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. N'importe qui ne peut pas s'expatrier. Les visas sans société sont maximum 6 mois. Après ça, pour créer une société, il faut soit être dans le domaine touristique, soit dans un domaine qui ne vole pas un job d'un Balinais. Donc faut trouver un domaine très précis.
Très bien, c'est bien. On t'appellera si on a vraiment besoin d'encore plus d'informations, je dirais aux gens. On donnera ton contact. Pour finir, le mot que tu préfères en balinais.
Bike. Ça veut dire que tout est bien, tout est bon, il n'y a pas de souci et ça va aller. Et c'est un mot qui est toujours positif dans n'importe quelle situation.
Alors, super, on va finir avec ça. Merci Valentine, je suis ravie d'avoir écouté ton parcours. Voilà, vous êtes vraiment deux jeunes très inspirants avec beaucoup, beaucoup de niaque. Vous êtes un très bel exemple d'entrepreneuriat. Je répète, vous avez seulement 23 ans. Vous êtes très volontaire et voilà, vous semblez avoir un cœur gros comme ça pour aider la population là-bas et vous ne faites pas que profiter du tout du système. Donc, c'est très, très inspirant et très motivant. Donc, à tous nos auditeurs, voilà, si vous voulez continuer à suivre Valentine. Justine et Thomas, voilà, aller sur
Oui.
Ouaina. Voilà, merci encore Valentine de ton témoignage sur la radio Les Français Pois Presse.
Merci
À
beaucoup, à
bientôt.
bientôt.